20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est à Cracovie, dans le cadre exceptionnel de la basilique Sainte-Marie, devant son grandiose retable, que Vincent Dumestre a dirigé son poème harmonique le mois dernier dans les Vêpres de Monteverdi, dans une version testamentaire de ces Vêpres, reprenant le déroulé de célébration de 1643. Un concert qui s'inscrivait dans la programmation du festival Mysteria Pascalia, dont Vincent Dumestre vient de prendre la direction artistique. Alors, il s'est confié à cette occasion à notre micro, alors qu'il s'apprête à redonner ses vêpres à la chapelle royale de Versailles le 28 avril. Avant cela, avant de le retrouver, jetons comme tous les soirs un coup d'œil sur les autres nouvelles de l'actualité musicale. Des nouvelles de la Scala de Milan tout d'abord, dont on suit depuis quelques mois les rebondissements successifs liés à la succession de son surintendant Dominique Meyer, qui atteindra la limite d'âge décrétée par le gouvernement italien. Alors c'est finalement Fortunato Ortombina, l'actuel directeur de la Fenice de Venise, qui a été nommé à ce poste et qui prendra ses fonctions dès le mois de septembre. Les deux hommes se côtoieront ainsi pendant un an, puisque Dominique Meyer ne quittera ses fonctions qu'en août 2025, mois de son 70e anniversaire. Quant à Riccardo Chailly, le directeur musical de l'institution milanaise, âgé de 71 ans, il s'est lui vu renouveler à ce poste jusqu'en 2026. Après Ravel, c'est au tour de Vivaldi de faire l'objet d'un biopic cinématographique et de deux biopics même, l'insigné John Ottman, qui retracera la vie du compositeur italien, et l'autre que réalisera Volker Schöndorff, qui s'attardera sur un épisode particulier de sa carrière lorsqu'il créa un orchestre exclusivement féminin au sein de l'Ospedale della Pietà. Deux films à découvrir en 2025, mais Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application Radio Classique. Dans le cadre de son cycle de concerts en lien avec l'exposition Paris 1874, l'instant impressionniste, l'auditorium du musée d'Orsay accueillera mardi prochain à 12h30 la violoniste Marina Schisch et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger. Ils nous plongeront dans l'ambiance d'un salon parisien prisé, celui de Pauline Viardot où Gabriel Fauré passait beaucoup de temps. Et cela autour d'un programme qui mettra en regard justement des pages de Gabriel Fauré et de Pauline Viardot. Après l'avoir dirigé il y a quelques jours au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et sous les micros de Radio Classique, Jérémy Rorer redonnera la Missa Solemnis de Beethoven mardi soir à la Philharmonie de Paris, toujours à la tête de son cercle de l'harmonie et du formidable chœur de jeunes de l'Audi Jugend Chor Academy. Particulièrement impressionnant dans cette œuvre où la partie chorale est si puissante et si exigeante. À leur côté en soliste, la soprano Shane Rice, la mezzo-soprano Vardoui Abrahamian, le ténor Daniel Bell et la basse Tarek Nazmi. Une soirée qui s'annonce intense comme l'a été celle d'Aix-en-Provence, tant cette œuvre est fascinante, à la fois grandiose et intime, une œuvre dans laquelle s'exprime ainsi un message presque plus universel que religieux. Rendez-vous donc mardi soir à la Philharmonie de Paris avec Jérémy Rorer et ses musiciens du Cercle de l'Harmonie que l'on écoute justement tout de suite dans quelques notes de Beethoven. Thank you. Le troisième mouvement de la première symphonie de Beethoven par Jérémy Rohrer et son cercle de l'harmonie. Jérémy Rohrer qui dirigera donc la Missa Solemnis de Beethoven avec son cercle de l'harmonie et l'Audi Jugendchor Academy mardi soir à la Philharmonie de Paris.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Le 26 mars dernier, Vincent Dumestre dirigeait les Vêpres de Monteverdi à Cracovie dans le cadre du festival Mysteria Pascalia, un festival qui compte parmi les plus importants dans le monde de la musique baroque et qui vient de fêter ses 20 ans, un festival que le chef du poème harmonique fréquente depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est le lendemain de son concert donné à la basilique Sainte-Marie que Vincent Dumestre nous a accordé un petit entretien pour nous raconter sa vision de ses Vêpres et l'esprit de ce festival dont il vient de prendre les rênes en tant que directeur artistique.
C'est assez rare un festival consacré à la musique baroque, déjà, et à la musique baroque de Pâques. C'est un festival qui a lieu pendant la Semaine Sainte et on sait qu'en Pologne, il y a une vraie tradition catholique très forte. Du coup, c'est assez naturel que dans un lieu comme ça, il y ait ce type de répertoire et ce type de festival. Et c'est une chance, en plus de ça, d'avoir une ville qui elle-même, d'ailleurs, produit le festival. Donc, moi, je suis en contact directement avec la ville, ce qui nous ouvre des portes qu'on a rarement l'occasion de pouvoir ouvrir, des portes sur des institutions de la ville, des structures, des orchestres, évidemment, des chœurs avec lesquels on travaille, mais aussi des lieux comme les musées, le musée de Czartoryski, le château de Wawel, qui est un petit peu l'équivalent de notre Louvre, et d'autres institutions qui nous permettent de mettre le répertoire, ce type de répertoire, dans des lieux appropriés. C'est ça, un petit, le nerf, le cœur de mon projet.
Oui, puisque votre projet artistique, c'est la réunion des arts, c'est mettre en avant le patrimoine architectural, le patrimoine visuel particulièrement riche de Cracovie, que le pictural et la musique se nourrissent.
Oui, c'est vrai qu'il y a plein de manières d'écouter la musique et il y a plein de répertoires qui, pourrait-on dire, s'écoutent dans la plus grande austérité, la plus grande sobriété, en se concentrant sur la musique. C'est vrai de plein de répertoires, mais c'est pas vrai à l'époque baroque où la musique était fonctionnelle. Elle était soit pour la chambre, pour distraire très clairement le roi. On sait que, par exemple, Robert de Vizé allait jouer au coucher du soleil dans la chambre du roi. La musique, elle est fonctionnelle aussi parce qu'elle est liturgique ou paraliturgique. Donc, elle est à la chapelle royale, si on parle de Versailles encore. En gros, les musiques avaient une fonction et étaient liées à des lieux et à des moments de retrouvailles, de regroupement. Donc, nous, on doit retrouver cette énergie. Et pour la retrouver, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de marier à nouveau, ou marier encore, un répertoire et une acoustique, et un lieu, et un art. Donc ça peut être effectivement, comme on l'a dit, au musée de Czartoryski, ici donc à Cracovie, ou devant le tableau de Da Vinci, on recrée la musique que Da Vinci a pu entendre au moment où il peignait La jeune fille à l'hermine en 1488. Ça peut être au musée Wawel, donc ce musée extraordinaire dans lequel, dans la chambre des sénateurs, on va redonner le Vendredi Saint, des musiques du Vendredi Saint qui ont été données en 1706. Donc voilà, c'est tout un jeu de plaisir esthétique dont fait partie évidemment la musique qui est la plus importante, mais aussi plaisir de découvrir le patrimoine. Et comme vous le disiez, je pense qu'il est capital de réunir le patrimoine matériel et notre patrimoine immatériel et de faire valoir ce patrimoine immatériel. Il faut rappeler que nous, ensemble indépendants, je parle là en l'occurrence en tant que chef d'orchestre du poème harmonique, et ainsi que tous mes collègues qui sont des musiciens d'ensemble indépendants, nous défendons un répertoire qui est le patrimoine millénaire de notre culture, de notre société, c'est-à-dire entre, en gros, l'an 1000, 1200, jusqu'à 1750, 1800. Nous sommes quelques ensembles indépendants à défendre ce répertoire, à chercher à comprendre ce répertoire, bref, à travailler sur l'histoire de notre société et la mettre en valeur et la défendre.
Thank you.
Vous avez dirigé le poème harmonique Vincent Dumestre dans cette église Sainte-Marie de Cracovie, dans les Vêpres de Monteverdi, devant un retable extraordinaire, l'un des plus grands retables, l'un des plus beaux retables d'Europe. Comment avez-vous vécu ce concert? De quelle manière la vision de ce retable, qui a été ouvert pendant la musique, ce qui a provoqué un frisson parmi les spectateurs, comment vous-même avez-vous vécu ce concert? Et de quelle manière cet élément visuel, ce retable et toute la force qui va avec, de quelle manière cela vous a influencé durant l'exécution de ces Vêpres de Monteverdi?
Bah, à la base, il faut dire que c'est un petit peu un jeu que j'avais envie de proposer au public, qui est celui-ci. Ce retable donc, de Weitstoss, qui date du 15e siècle, est donc le plus important retable en bois d'Europe. Il fait 13 mètres de hauteur et il vient d'être finir d'être restauré il y a 2 ans. Et ce retable est un des bijoux de la basilique Sainte-Marie. Et cette restauration m'a inspiré, là aussi dans un jeu de réponse entre le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, elle m'a inspiré l'idée d'une restauration de pièces musicales, restauration d'une partie de notre patrimoine musical. Et Dieu sait si voilà, nous travaillons justement sur cette question de la restauration de notre patrimoine musical, à faire donc des créations, des recréations d'œuvres qui n'ont jamais été données ou redonnées, donc depuis parfois 300, parfois 400 ans. Et ce qui est important, c'est de dire que ce ne sont pas les Vêpres de Monteverdi qu'on a entendues. Parce que si on dit les Vêpres, on fait référence aux seules Vêpres que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les Vêpres de Monteverdi de 1610, et en fait les seules Vêpres éditées par Monteverdi intégralement. Mais il faut se rappeler que ces Vêpres ne sont qu'une image photographique d'un moment instantané de la vie de Monteverdi, qui a eu la possibilité, la chance d'éditer cette œuvre, qui a duré probablement le temps de son exécution en 1610 à Mantoue, mais de nombreuses vêpres ont été données par Monteverdi pendant toute sa vie, et il est décédé à 73 ans, et évidemment qu'à Venise, Monteverdi a continué à donner des vêpres. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que sans oublier ces sublimes vêpres de 1610, il faut façonner ses oreilles et imaginer que Monteverdi a évolué dans son style, a évolué dans son écriture et a continué toute sa vie à composer des vêpres. Nous n'en avons plus. Sauf que Monteverdi, à la fin de sa vie, fait éditer une sorte de testament musical qu'on appelle les Selva Morale, et qui, dans les Selva Morale, contiennent bien les psaumes nécessaires pour la composition des vêpres. Donc clairement, Monteverdi piochait dans son œuvre des Selva Morale pour composer ses vêpres. Probablement jamais exactement les mêmes, toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire à partir des 5 psaumes importants sur lesquels il rajoutait les motets. Donc nous n'avons fait que très humblement essayer de faire le même travail que Monteverdi en son temps, c'est-à-dire récupérer les psaumes qu'il a composés pour les vêpres et réintégrer entre les psaumes des motets que Monteverdi a composés ou a connus dans les années 1640-1643, date de sa mort. Et c'est ce jeu de restauration que j'ai trouvé passionnant pour le public qui connaît l'écrin sublime qui est cette basilique, de se projeter dans ce moment doublement musical et esthétique, d'avoir devant soi ce patrimoine restauré qui est ce retable que effectivement on a ouvert dans un moment, je dirais peut-être de grâce, c'est un peu mainstream de dire ça, mais c'est vrai que c'était un moment de grâce dans ces portes de 13 mètres de haut qui se sont ouvertes au moment vers la fin de ces vêpres. Voilà une manière de dire au public qu'on peut aller au musée sans écouter de la musique, on peut écouter évidemment de la musique sans se nourrir d'art pictural ou autre, mais les deux sont toujours une grande source de joie et de référence intellectuelle, de réflexion sur notre histoire, sur notre passé, donc sur nous-mêmes.
nouvel extrait, le Pianto della Madonna de ses Vêpres à la Vierge de Monteverdi, version 1643, version reconstituée par Vincent Dumestre, captée ici par les micros de la radio polonaise dans le cadre de ce concert extraordinaire donné le 26 mars dernier à la basilique Sainte-Marie de Cracovie. Des vêpres que Vincent Dumestre redonnera donc avec ses chanteurs et musiciens du poème harmonique le 28 avril dans un autre cadre exceptionnel, celui de la Chapelle Royale de Versailles, et puis au mois de novembre à la Philharmonie de Paris. Alors ce concert à Cracovie s'inscrivait dans le cadre du festival Mysteria Paschalia, dont Vincent Dumestre est le nouveau directeur artistique pour 3 ans. Un festival qu'il a fait évoluer en ouvrant de nouveaux lieux, comme cette basilique Sainte-Marie, où ont résonné ses vêpres. Alors comment envisage-t-il justement cette aventure polonaise? On l'écoute.
Ce que je trouve passionnant, c'est que donc il y a des structures ici formidables, notamment à Cracovie, qui est quand même la capitale culturelle de Pologne. Nous avons ici des orchestres, des chœurs, des ensembles de musique ancienne et un public extrêmement passionné, extrêmement large, qui vient au concert. Donc sur cette base absolument formidable pour un directeur de festival, effectivement, je me suis intéressé à développer le festival sur des aspects qui pour l'instant n'avait pas été forcément développé. L'idée est d'avoir, un peu comme Avignon, le in et le off, c'est-à-dire les grands concerts qui représentent vraiment le cœur du festival, des grands concerts de musique sacrée dans des grands lieux, et notamment on a une sorte de philharmonie qui est l'AIS ici, qui est un complexe avec plusieurs salles, dont une salle avec une excellente acoustique de 1800 places, donc formidable pour des grands concerts. Ces grands concerts sont complétés par des séries de concerts plus intimes, notamment là, ce qu'on appelle les dormitios, c'est-à-dire des récitals à 22h de cette année de clavecin. Et le off, c'est une manière pour le public de découvrir la musique différemment. J'ai notamment ouvert ce palais Potocki au grand public et aux mélomanes en invitant des facteurs d'instruments de l'Europe de l'Ouest à venir présenter leurs instruments. Jean-Luc Haut est venu présenter sa collection d'instruments. François Rayland est venu également présenter sa collection d'instruments. Et donc, on a rempli ce palais de claviers de toutes sortes, du 16e au 18e siècle, pour montrer, alors, aux mélomanes, au grand public, aux enfants, aux familles, aux jeunes clavecinistes surtout, je dirais, qui sont nombreux en Pologne. Il y a beaucoup de professeurs dans les conservatoires, il y a beaucoup d'élèves, mais peu d'instruments. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de pas seulement être un festival où on vient, on garde sa voiture, on s'assoit, et puis à la fin du concert, on rentre chez soi, mais plutôt de créer une convivialité, un enthousiasme, un rapport avec le public plus fort, des rencontres, des masterclass, des workshops, des présentations d'instruments, les coulisses de notre métier, les coulisses de la musique. Certes, la musique parle au cœur et on peut se contenter de notre sensibilité pour l'apprécier, mais j'ai cru entrevoir, quand je parle avec le public, que plus il a de vocabulaire et plus il s'enthousiasme pour la musique. Et si on veut renouveler le public aujourd'hui, il faut, j'allais dire l'éduquer, c'est un mot que j'aime pas trop, il faut lui donner les clés. Dès qu'on a du vocabulaire, on prend les choses à bras le corps, on s'inscrit dans une dynamique complètement différente, on est mobilisé et de cette manière-là, on restaure le public, on renouvelle le public, la musique ancienne en particulier.
Mais est-ce que vous allez renforcer les ponts, les liens entre la France et la Pologne, ces liens qui existent déjà?
Oui, parce que d'abord, il y a une véritable amitié franco-polonaise. Il y a un tropisme pour la France, une francophilie en Pologne qui est historique. Bien sûr, la France a joué un rôle très important dans l'histoire de la musique ancienne, avec des grands chefs et des grands interprètes depuis le début du XXe siècle, même si finalement un nom très connu, c'est une Polonaise, c'est Wanda Nowdowska. Enfin, à l'origine en tout cas de ce renouveau de la musique ancienne, il y a aussi des Polonais et des Polonaises fameux. Mais la France a joué un rôle très important et elle le joue encore. Et je pense qu'il est très important que des musiciens comme Pierre Antaille ou Justin Taylor, par exemple, viennent ici et puissent s'adresser à des mélomanes, à des interprètes polonais pour tout simplement partager leur savoir. Après, c'est vrai qu'en France, on a aussi énormément d'ensembles. On a une proposition très large dans la musique ancienne. C'est la force, je dirais, de notre exception culturelle. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, l'idée, c'est de faire profiter généreusement de ces talents pour présenter, mais aussi pour collaborer. trouver les points de repère, les points communs qu'on peut avoir entre musiciens polonais, entre public polonais, public français. Et j'espère avoir la possibilité de faire réciproquement des choses en France avec des musiciens polonais, bref, de faire des allers-retours qui donneront toujours plus de liens entre nos deux nations.
Voilà, donc c'est parti pour 3 ans d'aventure avec ce festival Mysteria Paschalia. Les Vêpres de Monteverdi, vous les avez dirigées cette année, vous les redonnerez le 28 avril à Versailles et l'automne prochain à la Philharmonie de Paris. Et vous avez, j'imagine, Vincent Dumestre, encore bien des projets de reconstitution. On se souvient de votre constitution de la messe de mariage de Louis XIV dans l'église de Saint-Jean-de-Luz. Ce rapport à la fois avec l'art pictural, avec le patrimoine, avec l'histoire, c'est l'un de vos moteurs?
Je dirais que le moteur, c'est notre capacité à nous renouveler, à nous questionner et à remettre en question nos fondamentaux, finalement. Et je dirais, en tout cas, et là c'est personnel, en ce qui me concerne, si je fais ce métier, et si je fais ce métier avec cette passion et ce désir, c'est un désir de comprendre et rien d'autre. C'est un désir d'aller plus loin. Je pense que si je connaissais toute la vie de Monteverdi, pour parler de lui, toutes ses œuvres, et qu'elles étaient bornées, que je savais qu'il n'existe rien d'autre, et qu'on ait déjà tout interprété, je pense que j'en aurais plus ce feu sacré. Donc la passion, c'est la passion de nous comprendre à travers notre histoire, et donc en tant que musicien, comprendre les sentiments qu'exprime cette musique aujourd'hui, en allant puiser dans les sources, en allant comprendre les manuscrits, en allant à la bibliothèque Marciana à Venise, pour l'opéra principalement, en allant à d'autres endroits, tout simplement à la BNF à Paris, parce qu'on a des manuscrits absolument fabuleux de musique italienne. Et tous ces moments, finalement, qui sont le chemin vers un but, le chemin vers un objectif musical, et bien finalement, c'est ce chemin qui devient l'objectif, c'est-à-dire c'est le geste d'aller vers cette musique, d'essayer de la comprendre, et de progresser très humblement, année après année, sur un répertoire sur lequel on sait que jamais on n'arrivera à comprendre réellement Monteverdi, jamais on arrivera à savoir exactement ce qu'il a voulu dire, comment il a voulu le dire, mais toujours, par contre, on progresse vers une meilleure analyse de cette musique, une meilleure interprétation de son rythme, son inégalité, sa justesse, ses tempéraments, son organologie. Et la passion, elle est là. La passion, elle est dans le chemin et non pas, finalement, dans l'objectif qu'on pourrait se fixer.
Voilà, et puis des chemins que l'on a envie de suivre avec vous. Merci beaucoup, Vincent Dumestre.
Avec plaisir, merci Laure.
Le début du Magnificat des Vêpres à la Vierge de Monteverdi, des Vêpres testamentaires, telles que Vincent Dumestre les a données à Cracovie, sous les micros de la radio polonaise, avec son poème harmonique. Rendez-vous donc le 28 avril à la Chapelle Royale de Versailles pour une nouvelle représentation de ces saisissantes Vêpres de Monteverdi, et puis au mois de novembre également à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, le pianiste Guillaume Bellhomme viendra passer un petit moment avec nous. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.